France Inter, il est 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Nous sommes le vendredi 9 octobre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, Sophie Pétronin est libre. La dernière otage française dans le monde est arrivée à Bamako dans la nuit où elle a retrouvé son fils après presque 4 ans de séparation. Leur premier mot, les conditions de cette libération. Dès le début du journal, Agnès, après les autres titres.
De nouvelles mesures d'aide pour 75 000 entreprises frappées par la Covid-19. Pour réparer et non plus jeter, Bercy veut forcer les constructeurs de téléphones à vendre des pièces détachées. Novak Djokovic enchaîne les points et les polémiques. Et puis la découverte de la civilisation Olmec au musée du Quai Branly.
Et vos rendez-vous du vendredi, 7h45, le débat éco. Dominique Seux, Thomas Piketty échangeront sur le rapport publié hier par France Stratégie. C'est un bilan de la suppression de l'ISF et de la création de ce qu'on appelle un prélèvement unique sur les revenus du capital. Et puis à 8h20, ce sera la suite de nos entretiens spéciaux avec des écrivains américains. Aujourd'hui, nous ne serons pas dans les grandes villes cosmopolites des côtes des États-Unis, mais dans les forêts et les montagnes de Caroline du Nord. Avec François Bunel, nous recevons le romancier David Joy, Le poids du monde chez Sonatine et le titre de son nouveau roman.
France Inter.
C'est une frêle silhouette blanche dans la nuit de Bamako. Sophie Pétronin descend lentement de l'avion qui a décollé un peu plus tôt de Tessalit, ville du nord du Mali, près de la frontière algérienne. Un homme en chemise rouge se précipite vers elle en criant « Maman ». Sébastien Chadeau-Pétronin étreint sa mère longuement. Récit des retrouvailles entre une mère et son fils, signé Kaourou Magassa de Radio France Internationale.
3 ans, 9 mois et 15 jours. C'est le temps qu'aura passé Sophie Pétronin en détention dans le désert du nord du Mali. Cette femme de 75 ans le répète inlassablement. C'est sa foi et le souvenir de ses proches qui l'ont fait tenir.
Au fond de moi, j'ai toujours été sûre et certaine que je retournerai, que je ne mourrai pas entre les deux. Et je me suis dit, surtout n'accorde pas d'importance à la mort, parce que tu ne sais pas où, quand et comment elle arrivera. Alors, tu t'en fous. Vas-y, tiens bon, accroche-toi, fais ce qu'il a dit. C'est lui qui l'avait dit dans une vidéo. Accroche-toi, tiens bon. Et ben, c'est ce que j'ai fait.
Lui, c'est Sébastien Chadeau-Pétronin, son fils, debout à ses côtés, la main posée sur l'épaule de sa mère. Durant 4 ans, il s'est battu pour la retrouver, une trentaine de vols vers l'Afrique et beaucoup de sacrifices.
Si elle me demande pardon, j'ai envie de lui dire que c'est pas la peine de me demander pardon. Que moi aussi, j'avais vraiment envie de lui dire pardon. Parce que des fois, j'ai fait mon mieux.
Mais tu as fait ce que tu pouvais faire, que tu devais faire.
C'était
tu l'as
pas
fait.
Assez.
Mais non.
Sophie et Sébastien rentreront ensemble en France. Un Falcon médicalisé affrété par Paris atterrira aux environs de midi à l'aéroport de Villacoublay. Kaourou Magassa, à Bamako. Pour France Inter.
Sophie Pétronin et son fils seront effectivement accueillis par le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui dans un tweet a remercié les autorités maliennes. Le combat contre le terrorisme au Sahel se poursuit, dit-il. Annoncé en début de semaine, la libération de Sophie Pétronin est restée incertaine jusqu'à hier soir, faisant même craindre une négociation avortée. Récit de ses derniers jours de négociation avec Claude Guibal.
Il y a d'abord eu ces avions discrets qui se sont posés le week-end dernier dans le centre et le nord du Mali avec à leur bord ces hommes, des prisonniers, une libération d'une ampleur exceptionnelle, plus de 200 djihadistes qui a fait comprendre que des négociations hors normes étaient en cours. Entamées depuis des semaines par la junte au pouvoir au Mali depuis le coup d'état du mois d'août, ces négociations secrètes avaient pour but principal la libération de Soumaïla Cissé, un grand leader politique de l'opposition malienne kidnappé en mars dernier. Le nom de Sophie Pétronin ne s'est ajouté que sur le tard à ces négociations. Mais alors que lundi, leur libération était annoncée comme imminente, tout s'est arrêté. Terrible silence, révélateur d'ultimes tractations, intervention d'autres acteurs étrangers, parasitage, deux jours où un avion vide a attendu à Tessalit que les négociateurs arrivent avec les otages récupérés auprès de leurs ravisseurs respectifs. Terrible attente pour le fils de Sophie Pétronin, Sébastien, qui attendait à Bamako la fin de 4 ans d'un combat obstiné d'un fils qui n'a jamais cessé d'y croire.
Et dans le journal de 7h30, nous reviendrons sur les conséquences diplomatiques de cette libération.
Il est 7h05, l'épidémie de Covid en France, Agnès, avec de nouvelles aides pour les entreprises.
75 000 nouvelles entreprises ont en effet bénéficié du soutien de l'État, annoncé hier soir Bruno Le Maire aux côtés d'Olivier Véran lors du point hebdomadaire, notamment Philippe Lefebvre dans le secteur de l'hôtellerie et de l'événementiel.
Et la liste des entreprises qui pourront désormais bénéficier de ce fonds de garantie est longue, puisqu'elle va des fleuristes aux traiteurs, en passant par les blanchisseries, les photographes, les fabricants d'assiettes ou les graphistes. Selon les cas, elles pourront bénéficier d'une aide de 2 500 à 10 000 euros par mois. Par ailleurs, ce fonds sera accessible aux entreprises ayant jusqu'à 50 salariés contre 20 jusqu'à présent et ayant perdu 70% de leur chiffre d'affaires. Et dans le secteur de l'événementiel, on restait très prudent hier soir, car si les mesures vont aider les entreprises, Frédéric Pitrou, le délégué général de l'Union des métiers de l'événementiel, espère qu'elles resteront en vigueur au-delà de la fin de l'année.
À partir du moment où on va nous dire « vous pouvez refaire des événements », les événements ne vont pas revenir du jour au lendemain, puisque un événement s'organise sur plusieurs mois et donc il y aura un temps de latence entre le moment où on aura le go et le moment où on pourra réellement retravailler. Et donc si les aides ne vont que jusqu'au 31 décembre 2020, qui est déjà quelque chose, mais ça ne satisfera pas les organisateurs d'événements ou les lieux qui les accueillent, parce que les premiers événements n'auront pas la possibilité de se tenir avant 2021.
Enfin, et cela avait déjà été annoncé, le chômage partiel pris en charge à 100% restera en vigueur jusqu'à la fin de l'année dans tous les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel, du sport et de la culture.
Et puis après un bel été, la SNCF, qui a vu le nombre de ses passagers diminuer depuis la rentrée, va supprimer environ 5% de ses TGV dans les semaines qui viennent. Le ministre de la Santé a lui confirmé le passage en zone d'alerte maximale dès demain de Lyon, Lille, Grenoble et Saint-Étienne. Toulouse et Montpellier se voient accorder un sursis de 3 jours avant toute nouvelle décision. Plus de 18 000 nouveaux cas recensés au cours des dernières 24 heures. Un taux de positivité des tests à 9,8%. 1 400 patients en réanimation. La situation continue de se dégrader en France et en Europe avec de nouvelles restrictions en Allemagne. À Bruxelles, les cafés et les bars ont fermé hier matin et le gouvernement espagnol n'exclut pas de décréter l'état d'urgence à Madrid. En Israël, les habitants qui ont une double nationalité n'ont plus le droit de quitter le pays. Impossible, par exemple, pour les presque 150 000 franco-israéliens de revenir dans l'Hexagone, sauf situation d'urgence. Depuis le reconfinement il y a 3 semaines, les autorités israéliennes estiment que le passeport israélien l'emporte sur l'autre passeport. Une campagne de protestation vient d'être lancée sur Facebook. Correspondance à Jérusalem de Frédéric Mettezo.
Je me languis de ma famille, en hébreu, réunifier les familles en anglais. Derrière ces mots-clés et des photos de famille postées sur Facebook, des dizaines de binationaux dénoncent cette mesure. Shana Orlik de Tel Aviv a lancé la campagne avec plusieurs amis.
C'est un peu du désespoir, du désarroi, c'est même pas de la colère. Ce besoin, en fait, de comprendre pourquoi en tant que Français, on n'a pas le droit de rentrer en France est devenu une évidence.
L'ambassade de France a reçu beaucoup d'appels de la part de franco-israéliens déçus ou en colère, mais elle explique que la décision du gouvernement israélien est valide et que la France ne peut intervenir. On ne sait pas combien de temps va durer la mesure. Alors Laureline, dans son kibboutz sur la côte méditerranéenne, se languit de sa famille. Elle a posté une photo sur Facebook.
Sur la photo, donc, je suis devant le mur des Lamentations à Jérusalem avec ma sœur, mes grands-parents et ma sœur et mes oncles et tantes et tout le reste. Je ne les ai pas vus depuis décembre 2018. Ma vie, elle est ici. Mais juste me dire que j'aimerais bien aller en France pour voir ma famille, ce n'est pas possible.
Même si la situation se débloquait, certains hésiteraient à partir car tout retour en Israël est suivi de 2 semaines d'une quarantaine absolue. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Les députés ont dit oui hier à l'allongement du délai légal d'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines malgré les réticences de Matignon et de l'Élysée qui ont demandé un avis au Comité consultatif national d'éthique. Le texte est désormais entre les mains des sénateurs. 100 millions de smartphones dorment actuellement dans les tiroirs des Français. Alors pour leur redonner une seconde vie, le gouvernement souhaite promouvoir la filière reconditionnement pour limiter l'empreinte carbone et environnementale du numérique. Bercy a diligenté une enquête. Laurent Kramer.
La répression des fraudes devra déterminer si les plus gros fabricants du marché, Samsung, Huawei ou encore Apple, limitent volontairement la diffusion de leurs pièces détachées d'origine ou appliquent des tarifs si élevés qu'ils rendent le coût d'une réparation dissuasif pour le consommateur. L'accès aux pièces détachées est clairement restreint par les constructeurs, souligne Vianney Vaught, cofondateur du site spécialisé en téléphone d'occasion Back Market.
Pour un réparateur, c'est extrêmement difficile de trouver les pièces d'origine d'origine au bon prix et qu'elles soient disponibles. Certains constructeurs ont vraiment tendance à cadenasser le marché. Soit les pièces sont pas disponibles, soit les délais de livraison sont juste intenables. Et souvent, même quand elles sont disponibles, le prix est souvent un peu prohibitif puisqu'il y a des marges conséquentes qui sont réalisées sur ces pièces détachées.
Bercy lance donc une enquête pour vérifier que les pratiques commerciales des fabricants de smartphones sont en règle, notamment avec la nouvelle loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire qui impose désormais aux fabricants de rendre leurs pièces détachées disponibles et dans un délai maximum de 30 jours.
L'heure des demi-finales home à Roland-Garros, Rafael Nadal en quête d'un 13e titre affrontera Diego Schwartzmann et le Grec Stefanos Tsitsipas sera opposé au Serbe Novak Djokovic, le numéro 1 mondial qui enchaîne les dérapages. Guillaume Batin.
Testé positif au Covid-19 en juin avec sa femme et d'autres joueurs après une fête entre amis à Belgrade. Novak Djokovic refait la une il y a un mois à l'US Open à New York alors qu'il sort du tournoi en huitième de finale, agacé d'avoir perdu son service face à l'Espagnol Pablo Carreño Busta. D'un geste d'humeur, il envoie involontairement une balle dans la gorge de l'arbitre de ligne qui s'effondre. Djokovic présente ses excuses, mais il est disqualifié et humilié. À Paris, sa photo est partout dans le métro, sur le court. Il fait rire les spectateurs en prenant le balai des jardiniers. Il parle français.
Merci beaucoup, merci pour votre soutien.
Mais la polémique et les critiques refont surface avant-hier en quart de finale, encore une fois contre Carreño Busta. Avant de gagner, il s'incline au premier set, fait la grimace de douleur. Et son adversaire ne le rate pas en conférence de presse.
Chaque fois que le match se complique, il demande une assistance médicale. Il fait ça depuis longtemps.
Djokovic a beau être le numéro un mondial, il court toujours après une célébrité et une cote d'amour que les titres seuls ne peuvent pas donner. De quoi nourrir un éternel complexe face à Roger Federer et Rafael Nadal.
Et c'est une découverte que vous propose France Inter pour terminer. La découverte de la civilisation Olmec, première civilisation connue en Mésopotamie, bien avant les Mayas et les Aztèques. Le musée du Quai Branly à Paris expose 300 objets exceptionnels. Visite guidée avec Isabelle Pasquier.
Chez les Olmecs, les dieux n'ont pas l'air commodes. Les chefs politiques non plus. Des statues avec d'énormes bouches édentées qui semblent en colère. Un léger strabisme, une attitude autoritaire. Car les Olmecs ont inventé le pouvoir politique directement légitimé par les dieux. Dans ce golfe du Mexique, ils sont les premiers à créer des villes, mais pas seulement. Steve Bourget, commissaire de l'expo.
Ils vont être les premiers à faire de l'écriture, qui n'est pas encore déchiffrée aujourd'hui complètement. Et ils vont être probablement les premiers aussi à créer un calendrier du temps. Ils vont en fait domestiquer le temps et une façon de transmettre des concepts intellectuels par l'écriture.
Les Olmecs ont laissé leur héritage aux Aztèques. On s'arrête devant une stèle très explicite sur la pratique de l'autosacrifice.
C'est une stèle qui représente un dirigeant qui se perfore la langue. Il se perçait souvent soit la langue chez les hommes, soit le pénis. Les femmes aussi se perçaient la langue, les lobes d'oreilles. Cette idée de donner du sang durant un rituel est une façon de se marquer aussi comme étant partiellement divin, de s'associer au Dieu créateur.
Parmi les rituels chez les Olmecs, les sacrifices humains, sans doute des enfants et pour les adultes, le perdant du jeu de balle, un jeu disputé avec une énorme balle en caoutchouc, le perdant était sacrifié, décapité.
Une expo à découvrir jusqu'au 25 juillet au musée du Quai Branly à Paris.
Merci Agnès.